France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Émile Naoumov, je suis née le 20 février 1962 à Sofia. Je suis musicien, pianiste, compositeur et enseignant.
Bonjour Émile Naoumov.
Bonjour Judith Chen.
Vous m'entendez bien là ?
Magnifiquement.
Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas, on va sans doute le vérifier dans un instant, l'homme sans passé, mais vous êtes assurément l'homme sans visage, car nous faisons ces grands entretiens par téléphone, de studio à studio, par-delà l'Atlantique. Alors de mon côté, je suis à Paris, à Radio France. Et vous, Émile Naoumov, où êtes-vous ?
Je suis dans les studios de WFIU, qui est la radio de l'Université de l'Indiana à Bloomington, auprès de l'école de musique qui s'appelle la Jacobs School of Music. Je suis dans un studio de radio comme vous, avec micro et casque.
Alors, vous êtes pianiste, compositeur, orchestrateur, improvisateur, pédagogue, mais aussi écrivain. Vous avez couché déjà quelques souvenirs sur le papier, et puis musicologue. Enfin, vous avez produit des commentaires de grandes pages de musique pour les éditions Van de Velde. Quelle vie déjà pour un homme qui n'a pas 60 ans. Heureux mélange d'enthousiasme et de rigueur, qualité que vous avez reçue en partage par les soins d'une bonne fée, nous y reviendrons. Vous vous dites cartésien quand d'autres vous voient poète. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Un homme les pieds sur terre, la tête dans les nuages ?
Je crois que je mourrai naïf parce que rêveur. Et je pense que la polyphonie que m'a enseignée Mademoiselle Boulanger, enfant, parce qu'à l'époque je n'avais que 7 ans, m'a appris que les voix peuvent coexister dans une magnifique harmonie. C'est une idéalisation de la société. Et la polyphonie, ça a été le mot-clé de toutes mes études auprès d'elle. Et ça a forgé l'écoute, ça a forgé la recherche intérieure du fait qu'il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les voix musicales se parlent en même temps et s'écoutent en même temps. Donc je pense que de ce point de vue-là, je vais sûrement rester en tant qu'être humain aussi... Un doux rêveur, parce que je me rends bien compte que malheureusement il y a des dissonances et des guerres. Mais c'est pas que je les ignore, c'est que je pense que la qualité de la beauté que produisent par leur artisanat les êtres humains de par les temps font que quand on visite un musée, c'est une œuvre d'art que l'on admire d'une époque, tout en sachant qu'elle a été comme toutes les époques, fort cruelles. Alors, peut-être que c'est pour cela que je préfère rester un rêveur.
Parler de polyphonie, si jamais on revient au temps, le premier temps de votre vie, à l'époque où Nadia Boulanger n'existe pas encore, si on revient à ce premier temps-là, la polyphonie, elle est déjà dans votre maison. Vous entendez plusieurs langues ?
Oh ben ça, c'était parce que mes parents ont fait une expérimentation avec moi, parce que j'étais un petit peu couvée comme un œuf de Pâques. C'est-à-dire que...
Vous êtes enfant unique ?
Oui, mon papa a eu un fils presque 15 ans plus tôt d'une autre femme. Et donc là, quand j'ai suis arrivée, j'ai été entourée en tant que fils unique de ma mère qui me parlait en français et de mes grands-parents en grec. Qu'il était, parce qu'ils étaient grecs, et mon père me parlait en bulgare. Donc jusqu'à un certain âge assez avancé par rapport à d'autres enfants, car je ne sortais pas, on ne me sortait pas de l'appartement à Sofia, j'avais l'impression que tous les adultes ont leur propre langue individuelle. Et je ne savais pas que les autres la partagent. Je pensais que chaque adulte avait sa langue. Au fond, c'est un petit peu ce qui se passe avec la musique contemporaine post-tonale. Chaque compositeur a son propre langage. Et c'est pour cela qu'on a tant de mal à les comprendre, parce qu'il faut prendre le temps d'apprendre leur langue. Et c'est quelque chose que, oui, c'est vrai, c'est une sorte de polyphonie de mon enfance. Mais cela dit, j'ai été uniquement en ce qu'on appelle donc 11e, donc en primaire, un an à Sofia. Et l'année suivante, à 7 ans, j'étais déjà à Paris auprès de Mademoiselle Boulanger.
Et pourquoi est-ce qu'on ne vous sortait pas ? Peut-être que j'imagine qu'un petit garçon dont on décèle les dons, c'est quand même pas à un an ou deux ans, c'est peut-être plutôt, je sais pas, à quatre ans ou quelque chose comme ça. Mais déjà, vous étiez surcouvé, surprotégé.
C'est-à-dire que ma maman était grecque et avait fini une école de religieuse française. Donc, elle admirait la culture française et elle était de descendance grecque. Donc, pour elle, la Bulgarie, c'était les barbares. Littéralement. Alors, bon, elle voulait me protéger.
C'est pour ça qu'elle ne voulait pas vous sortir. Oui, d'accord.
Voilà. Et mon papa, qui était macédonien tout en étant bulgare, était quand même d'une part plus âgé et puis d'autre part, comme mes deux parents étaient dans le monde médical, ils passaient toute leur journée pas à la maison. Et donc, c'est pour cela que j'ai passé mon temps avec mes grands-parents grecs, qui étaient mes babysitters. Et puis, le piano était mon grand correspondant. J'ai toujours parlé au piano.
Pourquoi donc la famille de votre mère est venue à Sofia ? Quand est-ce qu'ils sont arrivés ?
Ben, ils sont arrivés un petit peu dans la génération de sa mère, parce que bon, les Balkans, il y a eu tant de choses qui se sont passées et qui fait que les minorités se sont entrechoquées, et puis il y a ceux qui partaient, ceux qui échouaient. Et donc, dans ces sortes de transhumances, il y avait pour ma maman le français qui représentait littéralement son univers. Je pense qu'elle a idéalisé la France par la langue et par la culture. Et donc, pour elle, les Bulgares étaient des incultes. C'est simple.
À toi, déesse, se querelle dans un bois. Quelle es-tu, ces princesses, la plus belle de nous trois? Et que ces déesses pour enjôler les garçons. Et que ces déesses ont de drôles de façons.
Votre mère est née avant ou pendant ou juste après la Seconde Guerre ?
Alors, elle est née avant et elle a fini ses études juste après.
Et votre père est plus âgé ?
Oui, parce qu'il avait déjà donc une épouse plus tôt. Et puis, disons que la Bulgarie était un pays qui avait, dans la période juste avant la fin de la guerre et donc l'occupation des soviétiques, était, dans ma petite enfance, donc, c'était un royaume allemand. En tout cas, il y avait un roi allemand. Et donc, mon père parlait allemand parce qu'il était éduqué ainsi pour la médecine. Il était radiologue, oncologue. Et donc, mon père était plutôt germanophone par ses études et ma mère était francophone par les siennes. Ce sont étonnants ces choses parce que c'est des pays tout petits avec des grandes des passés tumultueux, n'est-ce pas? Ils se sont entretués pendant des siècles et en plus dans les minorités, ce qui fait que j'ai été au fond peut-être sauvegardée par ma maman parce qu'elle ne voulait pas que je sois exposée à tout ça. Mmh.
Vos parents avaient donc deux cultures très différentes. De temps en temps, ça chauffait un peu, ils n'étaient pas d'accord ou...
À chaque repas. C'est pas difficile, c'est à chaque repas. Est-ce que Alexandre était macédonien ou le grand? Est-ce qu'il était grec? Pour ma maman, tout était grec. Pour mon père, tout était macédonien. Enfin bon, ce sont des choses qui paraissent un peu futiles comme ça, mais dans le fond, elles l'étaient tout en ne l'étant pas parce que ce sont des héritages, des minorités, et puis moi j'étais constamment connectée à mon petit piano droit Petrov avec qui je conversais.
Et dans la famille de votre père, je crois qu'il y a un peintre, c'est qui? C'est son père, Vladimir?
Oui, c'est ça. Alors, je ne l'ai malheureusement jamais connu. C'est un petit peu le regret parce que, bon, il est mort à 47 ans, en 49. Et il a peint beaucoup la Bulgarie rurale des années 30. C'était aussi, paraît-il, un grand idéaliste et un rêveur. Et il a passé sa vie dans les guerres parce qu'il était dans la guerre balkanique et la Première Guerre mondiale et la Seconde. Alors, au fond, il a passé toute sa vie en soldat et il a peint des paysages et des villageois très apaisants. Mais malheureusement, je ne l'ai jamais connu. Qu'à travers ses tableaux, naturellement. Et c'est une Bulgarie qui n'existe plus, de toute façon.
France Musique, les grands entretiens d'Émile Naoumoff.
Et votre grand-mère, vous l'avez connue?
Alors, ma grand-mère paternelle était professeure de solfège, de toutes choses, figurez-vous, parce qu'à l'époque, dans les écoles bulgares, rurales, elle animait les concerts, et la plupart des instruments qu'ils pouvaient trouver, c'était des accordéons. Et c'était les instruments pour accompagner le chant, etc. Il n'y a pas de piano dans la Bulgarie rurale, qui plus est d'autres instruments. Et donc, mon père s'est mis à jouer de l'accordéon. Il a même écrit un traité d'accordéon. Et sa mère, sa grand-mère plutôt, enfin ma grand-mère, donc sa mère, lui avait enseigné le solfège. Ce qui s'est avéré très important dans ma petite enfance, parce que comme je parlais à mon piano et que le piano me parlait, moi je ne savais pas noter mes pensées musicales quand je n'avais pas encore 5 ans. Et mon père enregistrait et puis ensuite prenait en dictée les enregistrements de mes improvisations. Et il me le faisait travailler comme une pièce de piano à part entière, comme celle de Bach et de Mozart que je jouais. Donc, grâce à lui, j'ai pu travailler ma propre composition comme une œuvre d'un autre. Et lui n'avait pas l'oreille absolue, il avait l'oreille relative pour les intervalles. Mais enfin, il a fait un travail minutieux et dont je lui cite très gré parce que ça devait prendre beaucoup de son temps.
Et lui, il était musicien alors. L'accordéon, c'est quand même pas rien d'en écrire un traité. Il est devenu médecin par vocation ou par... Ou...
J'ai l'impression que dans ces pays, à ces époques, les vocations avaient bon dos. par rapport à la survie de tous ces malheurs accumulés des guerres et des occupations. Et donc, je pense, comme il était un être curieux en tout, la science le passionnait, mais tout le passionnait. Et au fond, il avait commencé les premières émissions médicales sur la télévision bulgare en noir et blanc dans les années 50. Il était fasciné par la cancérologie et puis, mais enfin, il a toujours joué du violon, du hautbois et puis il a écrit ce traité d'accordéon. Je pense qu'il a hérité de son père la plume pour écrire comme pour dessiner. Et donc, il faisait tous les dessins pour les doigtés, etc. Je crois que c'était un musicien dans l'âme, mais c'était quand même un grand scientifique parce qu'il avait une admiration sans borne pour les mathématiques, que j'ai malheureusement pas pu hériter.
Et votre mère, comment était-elle? Est-ce qu'elle était musicienne et d'une famille musicienne?
Chez ma maman, il y avait de la musique dans sa famille, mais ma maman, c'était la linguiste. Donc, elle était, comme je vous le disais, profondément francophile, francophone, sans aucun espoir ou même idée d'y vivre. Simplement, c'est l'idéal de l'universel du 19e siècle français. Et je pense que dans ces minorités, dans les pays balkaniques, les petits garçons allaient dans les écoles de commerce anglaises et les petites filles, on les emmenait à l'école des bonnes sœurs françaises. C'est comme ça que dans sa classe, elle avait des copines qui étaient arméniennes, turques, juives, enfin, toutes ces filles qui étaient, au fond, qui gardaient leur ethnicité profondément, mais qui devenaient vraiment francophones, parce que c'est comme ça qu'elles s'identifiaient dans leur, en grandissant. Donc, c'est vrai que pour ma maman, la musique n'était pas une pratique, alors que pour mon père, ça l'a été.
Est-ce que la religion avait une place dans cette république populaire bulgare avec une mère grecque et un père d'origine macédonienne?
C'est-à-dire que mon père s'était voulu agnostique, sauf quand il y avait une œuvre de musique qui le touchait aux larmes. Et alors là, il... Bon, mais il n'était pas religieux dans le sens... observant des rituels. Alors que ma maman a tenu à ce que je sois baptisée, ce qui à l'époque se faisait, paraît-il, en catimini, pour dire le moins, parce que c'était interdit officiellement. Mais ma maman était... que voulez-vous, elle a quand même grandi pendant presque 10 ans avec des bonnes sœurs, donc elle était forcément catholique. Je pense plus par le goût de la France dans lequel le catholicisme de ses bonnes sœurs faisait partie de cette civilisation qu'elle représentait d'ailleurs. Thank you.
Quelles étaient les musiques qui émouvaient votre père aux larmes?
Alors, la quatrième et sixième symphonie de Tchaïkovski, mon Dieu. Ça m'a traumatisé dans un sens profond parce qu'il l'a joué devant moi comme un acteur. Il l'a dirigé, il l'a raconté, le 33 tours tourné. Dans Erl König de Schubert, j'avais l'impression qu'il était sur le cheval et moi j'étais l'enfant mourant qu'il portait. Enfin, il était un peu théâtral, pour dire le moins. Et moi, je suis restée jusqu'au présent, je prends tout à cœur. Et donc, dans la fin de la quatrième symphonie de Tchaïkovski, j'étais convaincue qu'il était mort. Et donc, j'étais traumatisée parce que vraiment, je suis allée voir la voisine, j'ai frappé à la porte, j'ai dit « Excusez-moi, mais je crois que papa est mort. » Et il y avait d'ailleurs, ça me rappelle, il y avait un portrait de Tchaïkovski au-dessus du piano droit. Et comme nos voisins n'étaient pas musiciens, ils pensaient que c'était un ancêtre. Ils disaient « Ah, c'est votre aïeul !» Et mon père disait « Pas du tout, c'est Piotr Ilitch Tchaïkovski !» Et d'un seul coup, c'était comme si on avait osé, n'est-ce pas? Parce que mon père avait une adoration pour les symphonies de Tchaïkovski. Et sans parler de la sixième. Alors là, ça... Mais d'ailleurs, je pense que tous les Slaves ont une... approche presque druidique pour le final de la sixième. Stravinsky était persuadé que quand il entendra, il mourra, et il en est mort en l'écoutant. Puis il était à côté de Tchaïkovski au moment de la création, dans le box, parce que son père était chanteur à Saint-Pétersbourg. Et beaucoup de gens de ce monde-là considèrent la sixième, donc le fameux Adagio Lamentoso, comme la prédiction de sa propre mort. Et moi, je dois dire que quand je l'ai enregistrée, quand je l'ai transcrite, elle me tenait tellement à cœur. Eh bien, c'était mon producteur de disques qui est mort. C'était son dernier disque de sa propre collection. Et il est mort d'un cancer foudroyant juste après. Alors, comme quoi, on commence à se dire que... C'est-à-dire que ce qui est fabuleux avec Tchaïkovski, voyez-vous, c'est que il ne parle pas seulement, mais aussi à l'intellect. Il parle vraiment à l'âme humaine, à tout ce qu'elle espère et au-delà, et tout ce qu'elle regrette. Et bon, c'est facile de dire, c'est des exagérations, c'est pompier. Qu'est-ce que j'ai pas entendu parler quand on me parlait de Tchaïkovski en France? Mais je pense que pour des pays d'Europe de l'Est, Borodine, Tchaïkovski, c'est un peu Bach et Beethoven, si on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tradition au-delà de musique dite classique comme à l'Ouest.
Le final de la sixième symphonie de Tchaïkovski, version Antal Dorati à Amsterdam, pour refermer le premier épisode des Grands Entretiens avec Émile Naoumoff. Merci à Christelle Vino et la radio WFIU de Bloomington, Indiana. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Jean-Louis Deloncle, mixage Marie Le Peintre, attachée de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.